9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6h avant minuit, nous sommes le lundi 19 mai 2025. Je crois qu'on a toujours la musique derrière. Mais c'est sympa aussi, ça change. Merci Gwen. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab, vous avez vraiment trop raison. Petite pub pour notre consoeur Radio Bois qui diffuse une super série intitulée Notes de comptoir, 20 reportages mettant en lumière les cafés culture, micro-lieux, guinguettes, espaces hybrides qui font vivre la musique en Bretagne à travers des interviews avec les artistes, les gérants et gérantes des lieux et des structures, sans oublier le public. Chaque épisode explore l'histoire de ces établissements et leur rôle social et culturel dans la scène musicale locale. Et figurez-vous que à Syllab, nous avons eu la chance de pouvoir réaliser un épisode. Il est centré sur le Marquis de Sade, café concert rennais incontournable, et il a été réalisé par nos trois volontaires en service civique de la saison 2024-25, Eva Barguil, Cyriane Jacques et Aglaé Jolivielle. Je ne peux que vous conseiller de l'écouter. Ça se passe sur radio-boa, comme un boa.bzh. Tout de suite, le flash de Julia.
Un Erasmus à l'anglaise, c'est ce qu'envisage le Royaume-Uni. Aujourd'hui, les dirigeants du Royaume-Uni et de l'Union européenne se rencontrent à Londres pour un sommet. Au programme, le retour d'un dispositif qui rappelle le programme Erasmus. L'idée serait de permettre aux jeunes britanniques et européens et européennes d'étudier, de travailler, de faire du bénévolat. Ce dispositif serait mis en place pour une durée de 1 à 2 ans et pour un nombre de participants préétabli. Une très bonne nouvelle pour les jeunes d'Europe. Depuis 5 ans, les bourses Erasmus étant abolies, ils et elles doivent payer très cher leurs frais de scolarité au Royaume-Uni, 22 000 livres par an en moyenne. Prendre le contrôle de tout le territoire, c'est la volonté affichée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou concernant le territoire palestinien. Le Premier ministre précise que les combats s'intensifient et qu'il compte prendre le contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza. Malgré cette annonce, Israël va laisser passer ce lundi des camions transportant de la nourriture pour bébés à Gaza, a annoncé la diplomatie israélienne. Une dissimulation par l'État, c'est ce que révèle aujourd'hui une enquête sénatoriale concernant l'implication de l'État dans le scandale lié aux eaux minérales produites par Nestlé. Après 6 mois de travaux et plus de 70 auditions, la commission révèle que c'est, au plus haut niveau de l'État, que la décision d'autoriser une microfiltration de l'eau en dessous du seuil de 0,8 microns a été prise. Une décision normalement interdite. Elisabeth Borne ou encore Emmanuel Macron affirment ne pas avoir eu connaissance de cette affaire. Pourtant, selon l'enquête, la présidence de la République savait que Nestlé trichait depuis au moins 2022. En fermant les yeux, les pouvoirs publics ont permis à la firme de continuer à commercialiser son liquide comme eau minérale naturelle, une appellation très lucrative. La création d'un nouveau quartier de haute sécurité dans une prison en Guyane peut-elle être une solution au narcotrafic et à la radicalisation? C'est en tout cas l'idée qu'a avancée Gérald Darmanin samedi. Ce quartier devrait voir le jour en 2028 dans la nouvelle prison de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, pour répondre à la surpopulation carcérale. Selon le garde des Sceaux, il permettrait de mettre hors d'état de nuire les profils les plus dangereux du narcotrafic, et la solution pour le ministère, éloigner les criminels des réseaux métropolitains. La même logique serait appliquée aux islamistes radicaux. Cette décision fait l'objet de nombreux débats, plusieurs élus, notamment de gauche, comme Marine Tondelier, dénoncent un symbole problématique, et le retour d'une idéologie coloniale rappelant la création du bagne. S'agissant d'élus, hier avait lieu l'élection du nouveau chef du parti Les Républicains. Ce parti politique de droite fondé en 2002 par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, voyait s'opposer deux candidats pour le poste, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez.
Jusqu'au bout, Laurent Wauquiez a espéré créer la surprise et reprendre les rênes du parti pour lequel il a déjà été élu président entre 2017 et 2019. Mais à 18h, quand le verdict tombe, c'est le nom de Bruno Retailleau qui est applaudi. Élu avec 75% des voix, sa désignation est sans appel et loin devant les 25% de Laurent Wauquiez, sorti alors humilié de ce duel. L'actuel ministre de l'Intérieur est donc depuis hier le nouveau visage du mouvement. Cela faisait plusieurs semaines que les deux candidats s'affrontaient sur les plateaux et avançaient leurs dernières billes avant que les scrutins ne soient clos. Tandis que l'un prévoyait la suppression de l'ensemble des aides financières apportées à l'université Lyon 2 accusé d'islamo-gauchisme. L'autre confirmait son intention de dissoudre la Jeune Garde et Urgence Palestine, deux collectifs de lutte contre le fascisme et pour l'autodétermination du peuple palestinien. Une surenchère qui ne cache plus les valeurs conservatrices partagées par les deux hommes. Plus qu'une ligne politique, les militantes et militants voient en ce vote l'opportunité de stabiliser leur parti fragilisé depuis la désertion d'Éric Ciotti en juin dernier. En décidant de s'allier avec l'extrême droite lors des élections législatives anticipées, il avait laissé la présidence vacante. Mais au-delà de cette ambition interne au parti, il et elle voient en leur nouveau président un espoir pour les élections présidentielles de 2027. Si Valérie Pécresse avait été écartée dès le premier tour des élections de 2022 avec moins de 5% des voix, Bruno Retailleau apparaît aujourd'hui comme le seul candidat capable d'accéder au second tour. Mais fera-t-il ce choix ? Quittera-t-il la tribune que lui offre son poste de ministre ? Et à défaut de gagner, le Parti Les Républicains risque de s'imposer comme une force incontournable de notre échiquier politique actuel, devenant la variable à conquérir pour atteindre une majorité parlementaire. Alors si les projections s'écrivent depuis 24 heures, le chouchou de Bolloré et des camps présidentiels et d'extrême droite a encore 2 ans pour voir son ascension être chahutée.
Merci Nora. Il est temps de voter, vous avez la possibilité depuis aujourd'hui de voter pour le dispositif Nos lieux communs. Au cœur de l'initiative, 16 lieux dans la métropole rennaise mis à disposition des habitants et habitantes pour développer des projets liés à la transition écologique du territoire. Mais comment voter ? Eh bien, il suffit de résider dans l'une des 43 communes de la métropole. Le vote se fait en ligne avec la possibilité de choisir 5 projets maximum parmi les 32 proposés. En parlant de transition écologique, les terres biologiques de la ferme du Breuil sont menacées. Plusieurs collectifs et associations portent un communiqué pour défendre la ferme située à Melesse. Les terres ont toujours été cultivées en bio, et aujourd'hui, il y a un risque que ça s'arrête. Jeanne a contacté Arnaud Daligo, maraîcher bio et vice-président d'AgroBio 35. Il nous a expliqué la situation.
Donc la ferme du Breuil, c'est une ferme qui est située sur la commune de Melesse, donc la grande périphérie de Rennes. C'est une ferme qui est en bio depuis 2 générations, depuis à peu près 50 ans. Qui donc a mis en place depuis de très nombreuses années un système agronomique, agroécologique. Enfin bref, il y a tout un équilibre qui s'est créé sur cette ferme-là depuis 50 ans. C'est quand même un beau gâchis si ça repart en conventionnel. Enfin, si ça repart, ça n'a jamais été en conventionnel, ça n'a jamais connu la chimie. Le propriétaire actuel a souhaité transmettre sa ferme et a donc confié la vente de sa ferme à la SAFER. La SAFER, elle a pour essentielle mission en fait, de maintenir les terres agricoles en agriculture. C'est sa première mission. Lorsqu'il y a des mouvements fonciers, notamment des ventes, elle est là pour veiller à ce que les terres agricoles restent à l'agriculture. Cette ferme représente 40 hectares avec des bâtiments. Et donc la moitié était attribuée aux candidats conventionnels et donc au détriment d'un des candidats bio. Donc comme je vous le disais, la SAFER, elle a une mission d'intérêt général et elle est là pour faire respecter certains textes, certaines directives, certaines lois et notamment les priorités qui sont inscrites dans le schéma directeur régional et les lois au travers du code rural. Donc là en l'occurrence, dans le schéma directeur régional, il y a une priorité qui est très explicite et qui dit que toute terre labellisée en bio doit, dans le cadre d'une transmission ou d'une vente, doit rester en bio. C'est une obligation. Et le code rural le stipule lui aussi. Il y a quand même eu une proposition qui a été faite par le candidat conventionnel de dire bah, « Écoutez, moi, je vous garantis de préserver ces terres en bio pendant 6 ans. On ne peut pas s'inscrire dans la continuité, dans la pérennité, juste sur 6 ans. » Pour rappel, quand même, la nouvelle loi d'orientation agricole affiche pour objectif 21% des terres agricoles françaises en bio d'ici à 2030. C'est vraiment là-dessus qu'on va insister auprès des pouvoirs publics dans les jours à venir pour que cette ferme du Breuil reste effectivement en bio et sur le long terme.
Merci Jeanne. Vous souhaitez papoter autour d'un verre ? Ce sera possible demain, dès 21h, au bar Mode Cause, à Rennes, sous forme d'un apéro-compte interactif. La conteuse Azilis Chartier propose un atelier ouvert à tous, où ce qui est raconté par chacun débouchera sur l'écriture d'un récit. Ce soir-là, c'est vous qui inspirez les récits d'Azilis, que vous soyez bavard ou taiseuse, timide ou grande gueule. C'est au public et à prix libre.
Merci Julia pour ce tout premier flash. Dans 6h avant minuit, on passe à l'interview.
6 heures avant minuit.
Il et elle sont tous trois vêtus de blanc. Marie Parent, membre de la compagnie de théâtre La Morsure. Thomas Cassin, éducateur spécialisé au sein de l'association Arroche. J'espère que je prononce bien Arroche. et ancien étudiant d'Ascoria, et Zoé Jean, chargée de projet à Ascoria. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être ici, vous êtes venu nous parler du film Tombé, qui est réalisé par Stéphane Pougnan. On peut peut-être commencer par parler des principaux et principales protagonistes de ce documentaire pour situer donc les jeunes de l'ITEP d'Arroche. Déjà, qu'est-ce que c'est un ITEP ? I-T-E-P.
Je pense que je vais répondre du coup. Donc c'est à Rock, par contre.
Désolé, fallait pas hésiter à me couper.
Il n'y a pas de souci. Donc un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. On accueille des jeunes ayant des troubles du comportement. Et en fait, donc c'est une équipe multiprofessionnelle avec des éduques, des enseignants et des thérapeutes. Et en fait, on va travailler autour... autour du jeune, de sa famille, qui travaille sur ses troubles et en fait qui sont en posture d'élèves, de citoyens et puis de jeunes avec finalement une vie ordinaire. Donc on pourrait déplier pendant plusieurs minutes sur ce qu'est un ITEP, mais en gros c'est ça.
Ok, et donc le film est centré autour de 6 jeunes, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont-ils et elles, quels sont leurs profils, leurs parcours? Qui prend la parole?
J'y vais encore. donc oui, c'est 6 jeunes en effet. Donc ils sont qui ont entre 12 et 18 ans, je crois, à peu près. Donc de plusieurs âges différents. Qui sont accompagnés à l'ITEP pareil depuis entre, je crois, 2 et 5-6 ans. Ils sont avec nous. Et donc en fait, ils ont intégré ce projet parce que. On a estimé donc avec les collègues donc Margot et Perrine qui sont toutes les deux éducatrices aussi que c'était des jeunes avec lesquels le projet donc leur projet parce qu'on établit un projet pour ces jeunes-là avec eux et avec la famille correspondait avec ce que le théâtre pourrait apporter en fait dans leur vie dans quelque chose de on va dire de soignant d'éducatif en fait donc voilà.
Et les jeunes sont volontaires, c'est-à-dire c'est eux qui se portent volontaires pour participer ou ça rentre vraiment dans leur cursus, je sais pas comment.
Alors non, on n'impose pas, c'est vraiment réfléchi, proposé aux jeunes, mais on peut pas, c'est vraiment le jeune qui montre de l'intérêt, donc nous on en a parlé au sein de l'ITEP et c'est vraiment par l'intérêt du jeune. Mais comme j'ai dit, on ne peut pas imposer. Donc, il y a pareil, un travail avec les familles qui est établi pour aussi recueillir leur consentement sur ce genre de projet. Parce que, comme on va en parler, je pense, plus tard, c'est un projet qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de place, autant pour les professionnels que pour les jeunes. Oui. Où ils ont donné aussi de leur personne, clairement.
Donc ce projet, il est initié par Ascoria. Est-ce qu'on peut expliquer pareil ce que c'est Ascoria ?
Oui, Ascoria, c'est une école qui forme au métier de solidarité, donc notamment au travail social. Et ce projet, il a été porté dans le cadre de la signature d'Ascoria, qu'on appelle l'apprendre autrement. Qui s'inscrit dans 3 dimensions. Il y a une dimension d'abord solidaire. L'idée, c'est de permettre aux étudiants, aux apprenants qu'on accueille de s'investir, de s'engager dans des projets. La deuxième dimension, elle est pédagogique. L'idée, c'est de venir accompagner la montée en compétences des apprenants par des modalités diverses. Et la troisième dimension, elle est individuelle. L'idée, c'est de venir répondre d'adapter les parcours de formation au profil des apprenants. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, dans ce cadre de signature pédagogique que Yona, Émilie et Anaïs, donc qui sont les étudiantes qui ont participé au projet, qui ont pu s'engager dans un projet comme celui-ci, impact social et puis artistique aussi, du coup, avec la morsure.
Donc parlons-en de la morsure, parlons-en du théâtre. Pourquoi avoir choisi, dans le cadre de cette pédagogie Apprendre Autrement, le théâtre? Comment ce projet s'est construit un peu?
Ça vient dans l'histoire. Nous, c'est la troisième année qu'on est intervenu à Ascoria. On avait proposé, dans le cadre du salon des innovations sociales et solidaires, une soirée d'ouverture avec un projet qu'on avait avec des personnes âgées, qui s'appelait Memory. Et un projet, on a monté une troupe avec des amatrices. Des personnes qui commençaient le théâtre vraiment sur le tard, qui n'étaient pas d'anciens, anciennes comédiens, comédiennes, mais qui commençaient le théâtre avec nous. l'improvisation en particulier. Donc ça, c'était la première fois qu'on est intervenu. Puis après, on est revenu avec Colère, qui était un projet avec l'ITEP à Rock, dont Thomas et Margot avaient déjà fait partie. Et puis voilà, c'était la troisième fois. Donc a priori, il faut croire que ça fonctionnait entre l'établissement et peut-être un certain état d'esprit. En tout cas, on trouvait un intérêt commun à bosser ensemble. Quoi.
Et donc le défi, c'était de faire monter ces jeunes sur scène. Comment ça s'est passé ?
Le défi, c'était de créer un spectacle qui parlait des jeunes, de faire monter aussi les adultes sur scène et de créer une relation horizontale, artistique, par le biais artistique, entre justement des gens qui se retrouvent dans une, comme je disais, dans une certaine horizontalité et qui vont faire acte de création, acte de jeu ensemble. C'est une forme de projet politique, en fait, d'imaginer qu'on n'est pas toujours dans le même type de rapport éducatif, pédagogique, descendant avec les sachants, les sachantes, ceux qui sont du bon côté de la barrière sociétale, qui ont réussi leur vie, et puis ceux qui sont en difficulté. Nous, on aime bien, en tout cas, on trouve que l'art, c'est un espace qui permet d'inverser, un peu comme le carnaval, la vocation du carnaval à une période où on peut se déguiser, on peut se costumer comme on veut. Le roi devient bouffon et voilà, le puissant devient misérable. Et donc, l'endroit artistique, il permet aussi de créer ces formes-là. Et nous, on travaille très souvent comme ça avec la compagnie. On trouvait que c'était très fort, y compris chez les travailleurs sociaux ou apprenants, de se mettre dans une position d'humilité et d'apprentissage différent. Et puis, évidemment, pour les jeunes, d'être dans un endroit, alors sans doute ludique, parce que quand on joue la comédie, quand on joue au théâtre, on joue. Mais pas que dans un jeu, on va dire, naïf ou juste divertissant, puisque le divertissement, c'est pas forcément intéressant aussi. Ça nous permet de pas regarder les choses en face. Bref, voilà l'idée de ce travail de création.
Et l'improvisation, c'est un outil qui est choisi pour une raison particulière. Ça permet de faire plus de choses, je sais pas.
Oui, en fait, nous, on travaille quand même dans ce qu'on appelle un cadre dramaturgique établi, donc un canevas dans lequel les gens vont improviser. Donc jusqu'au bout, la parole reste libre, elle n'est pas totalement figée. Il y a des objectifs, on prépare, mais en fait, au bout d'un moment, nous, en tant que méta-auteur, metteur en scène avec Christophe Le Chevillère, on abandonne, en fait. On accepte que quelque chose nous échappe. Et on trouve aussi que l'improvisation, c'est une façon pour des gens qui peuvent être parfois en difficulté, comme ces jeunes, avec un rapport à l'apprentissage classique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en difficulté par rapport à tous les apprentissages, mais en tout cas un apprentissage traditionnel, et bien l'improvisation, elle permet de se réapproprier le langage, de parler sa propre langue, de pas forcément parler pointu comme on dit, mais de parler avec son accent. Mais nous, on a une forme de réelle admiration pour les langages différents et pas avoir un langage aseptisé, à nouveau du côté du pouvoir savoir, quoi. Donc l'improvisation, en plus, c'est quelque chose qui on aime bien dire que parfois c'est un peu comme une drogue dure, ça vient très vite. On arrive très vite à quelque chose où qu'on peut relativement maîtriser. Après, c'est dans le temps que ça devient plus difficile, mais au moins ça peut attraper les gens. En tout cas, c'est pour ça que ça peut marcher des fois avec les matchs d'improvisation, ce qu'on ne pratique pas du tout, mais enfin, ce qu'on a pu faire il y a longtemps, mais vont fonctionner très vite avec des collégiens, des collégiennes. Parce que justement, on leur dit plus ce qu'ils doivent dire, mais ils peuvent s'approprier à nouveau le langage et s'exprimer.
Et vous parliez un peu de perdre le contrôle. Alors, comment est-ce que vous avez perdu le contrôle avec ces jeunes ? Comment est-ce qu'ils vous ont surprise ?
Je ne sais pas, Thomas, t'as envie d'en parler ? C'est une belle perte de contrôle, en fait, peut-être.
Comment dire ? C'est vrai que c'est... Je ne saurais pas comment vraiment l'exprimer.
Je t'aide si tu ne trouves pas.
Non, mais oui, c'est qu'on... Voilà, c'est des jeunes, comme je disais, avec des troubles du comportement. Il faut voir au-delà aussi. Et donc, c'est aussi des jeunes, quoi. Et donc, il y a ce côté, c'est vrai, un peu imprévisible, où il fallait vraiment, je pense, dealer avec l'adaptabilité constante. Il fallait toujours adapter. Et en fait, ça donnait lieu à des choses qui étaient assez intéressantes, où on pouvait voir des jeunes qui n'étaient pas dans une bonne journée. Et on avait quand même fallait qu'on joue, qu'on improvise. Et donc, on détournait. Donc, chacun avait ses stratégies par l'humour. Je pense à l'humour, parce que c'est surtout, je pense, l'humour qui a permis de décanter pas mal de situations. Mais oui, on est, c'est ça. Je pense que le mot, c'est... on doit s'adapter et ça amène à des petites surprises, des choses assez intéressantes. Ouais.
Et vous avez trouvé que ça les a changés comment, ces jeunes, que ça leur a apporté quoi ?
C'est une question qui est un peu compliquée à répondre, mais en tout cas, la chose importante, je pense, à retenir, c'est le travail sur l'estime de soi. De la confiance. Je pense que l'exercice de jouer, enfin je m'inclus dedans aussi, parce que je pense qu'il ne faut pas séparer les jeunes des éduques.
parce que vous avez dû jouer aussi.
Bah, c'est ça, en fait, on a tous mouillé le maillot. Et je pense qu'on est tous sortis de là en ayant un peu un égo gonflé. Et en tout cas, c'est des choses qu'on travaille, nous, à l'ITEP, avec les jeunes. C'est comment... comment le jeune peut ressortir et dire bah là j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en estime de moi-même. Donc ouais, je pense que c'est surtout ça qui peut changer le jeune. Après voilà, c'est aussi il y a aussi d'autres enjeux qui appartiennent à la vie du jeune qui peuvent venir impacter, mais en tout cas ouais c'est ça. Je pense que c'est ça.
Là où je te rejoins, c'est qu'on n'est pas, ce serait d'ailleurs pénible d'être juste sur une success story où en fait le projet s'est très bien passé. On a réussi à faire un spectacle, à le jouer deux fois, c'était aussi quand même un challenge important. En tout cas l'idée c'est de pas aseptiser la proposition. Nous on a envie qu'il y ait du vivant. La perte de contrôle, c'est aussi être du côté du vivant. Et il y a nous là, actuellement là on travaille avec un accueil de jour qui s'appelle L'Autre Regard, avec des adultes en souffrance psychique qui ont d'autres types de troubles. Et la personne qui nous a embauchés sur ce projet disait bah, ce qui me plaît dans votre compagnie, c'est que souvent, en tant que travailleurs sociaux, on essaye que les gens reprennent totalement le contrôle sur leur vie. Et vous venez encore un peu tordre ça, mais à un endroit qui fait que les gens ne s'abîment pas, en fait. Donc, c'est de reprendre avec joie. Parce qu'il y a l'idée de joie, il y a l'humour, mais aussi il y a une joie parce qu'il y a des scènes qui étaient graves, qui étaient sérieuses. Mais en tout cas, la question ludique de reperdre le contrôle, mais en maîtrisant un certain dérapage, et ça se passe à l'endroit de la scène. Donc, de la même manière qu'on joue, on a joué avec les signifiants comme la colère qu'ils avaient besoin d'exprimer, et le fait de tomber, eh ben c'est quand même il y a un double sens là-dedans quoi. Donc la perte de contrôle, elle est pour reprendre le contrôle, mais c'est toujours cette dialectique de se dire on est en colère ou on tombe, mais pour se réapproprier un peu quelque chose de sa vie. Donc il n'y a pas de recette miracle. Si avec un spectacle on réussissait à faire que tout aille bien, ben je pense que déjà il n'y aurait pas de coupe dans le budget de la culture actuellement. Mais en tout cas c'est pour dire que ce serait assez hypocrite de penser que tout va bien après et aussi tout puissant, assez lamentable en un sens de la part des travailleurs sociaux et des artistes. Quand même, la question de la dignité, pour nous, c'est se tenir debout. Donc, quand on ne tombe plus, bah, on se tient debout, c'est déjà pas mal, même pendant quelques heures.
Donc, il y a eu ces deux représentations, vous l'avez dit, face au public, au Théâtre de la Paillette et au Tambour, ici à Rennes 2. Mais il y avait aussi la caméra. Comment ça s'est passé ce rapport à la caméra? Je voulais vous demander aussi comment vous avez choisi le réalisateur Stéphane Pougnot.
Eh bien, en fait, on avait déjà mené plusieurs projets. Enfin, donc, Ascoria avait déjà mené plusieurs projets avec Stéphane. Et voilà, quand on a eu l'idée avec la compagnie de monter ce projet, on s'est dit que ça pouvait être tout à fait important de le documenter, de le suivre. Et à ce moment-là, Stéphane Pougnot a tout de suite manifesté son intérêt pour suivre ce processus de création.
Et est-ce que c'est venu un peu perturber, vous, votre travail, Marie? Parce qu'on sait que quand on a une caméra braguée sur nous, on n'agit pas forcément naturellement. Est-ce que c'est venu changer les choses?
En fait, nous, on connaît Stéphane aussi. On travaille avec lui dans d'autres endroits. Donc, c'est quelqu'un aussi dont on apprécie l'éthique, la relation aux jeunes. Et on a aussi discuté, nous, en tant que compagnie, avec Stéphane, même si c'était une commande d'Ascoria. Ça nous a paru important qu'il n'y ait pas de regard voyeur chez les jeunes, que lui sache se faire discret. On n'aurait jamais travaillé avec quelqu'un qui, justement, s'impose trop. Et, enfin, je ne sais pas, peut-être tu peux répondre, Thomas, comment vous avez vécu. Mais au début, on voit les jeunes étaient assez à regarder la caméra, puis rapidement il a su se faire oublier. Je sais pas.
J'ai eu cette sensation là aussi, c'est que c'est passé assez rapidement là, ce côté il y a une caméra, une belle caméra, combien ça coûte, voilà. Mais non, c'est vrai qu'assez rapidement ils s'y sont faits, on s'y est fait également. Bon, à part Stéphane qui a perdu peut-être un peu d'audition
une avant fois, la présentation,
c'est vrai. Ça faut le dire quand même. Mais non, c'était plutôt, je trouvais assez fluide finalement.
Et les jeunes aussi étaient, on sentait, comme tu dis, après le petit côté excitation du début. On bossait en fait, on était là pour bosser. Donc je crois que.
Vous avez ça en tête.
Ouais, c'est ça. Et puis même nous, on était pris dans le travail. Donc t'oublies rapidement.
Donc ça a donné un documentaire qui s'appelle Tomber. Encore en rapport à la perte de contrôle, ce titre.
Oui, bah c'est oui, ça. Comme on disait, c'est le terme, normalement, on devrait dire se relever. Et puis, en fait, nous, on préfère dire tomber, parce qu'il y a plein de façons, on le voit dans le documentaire, il y a plein de façons de tomber. On peut tomber amoureux, on peut tomber enceinte, on peut tomber dans les escaliers, on peut tomber en dépression, etc. Mais en tout cas, la vie, de façon, c'est ça. On n'est pas juste en train... on n'avait pas envie de raconter de façon chronologique des gens qui vont mal et puis qui vont mieux, en fait. C'est de dire, bah, la vie aussi, c'est le commun de nos existences, y compris des éducs, de nous, des artistes. On tombe, on se relève, et il y a un espoir commun, en tout cas, et une dignité à avoir. Donc, tomber, c'était mieux que se relever.
Et donc, à voir en avant-première, lundi, à l'Arvor, ce documentaire. C'était prévu dès le début, ce partenariat avec l'Arvor?
Oui, plus ou moins. En fait, on voulait absolument ponctuer ce projet qui a duré pendant une année. On voulait que ce soit un temps festif dans un cinéma rennais. C'était aussi important pour tous les acteurs et actrices qui se sont engagés dans ce projet-là, qui est une projection en bonne et due forme. Voilà, ça nous tenait à cœur.
Ouais, c'est super. Autant, je me permets de rajouter ça, nous, on trouve que la justice, c'est pas que les gens, juste les publics en difficulté, viennent dans les salles voir les spectacles, c'est qu'ils soient sur scène. Ça rééquilibre un peu les choses. Et là, donc, ils ont pu aller dans deux scènes quand même intéressantes, qui est le théâtre La Paillette et puis le Tambour. Et là, ils vont se voir sur un grand écran. Est-ce que ça
ils n'ont pas encore vu le film, là?
Non.
Ils n'ont pas vu le film encore.
Ce sera sans doute émouvant. L'objet cinéma, pour eux, je ne sais pas ce que ça représente, mais...
Bah d'être spectateur cette fois-ci du travail qui a été établi, je pense que ouais, ça va être quelque chose d'intéressant. Et puis,
de se voir en grand.
Ouais, c'est ça.
Déjà, la bande-annonce, elle donne des frissons.
Ouais, c'est vrai.
Je pense que ça va être émouvant. Et quelle suite pour ce film, alors, après donc, il est visible juste à Rennes?
Et bien du coup l'avant-première aura lieu le 26 mai à l'Arvor. À la suite de cette avant-première, on va diffuser le film sur notre chaîne YouTube, donc sur la chaîne YouTube d'Ascoria. Et puis des projections seront proposées courant 2025-2026 sur l'ensemble des écoles d'Ascoria.
Ok, super. Bah, on donne rendez-vous à nos auditeurs auditrices donc ce lundi 26 mai à 19h pour l'avant-première à l'Arvor. Merci à vous trois d'être venus pour nous parler de ce projet.
Merci. Beaucoup.
Merci beaucoup.
Quelle heure est-il?
6h.
Minuit, pourquoi?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01. À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
On poursuit avec la chronique et c'est Romain qui est de retour pour sa chronique. Un album, un style. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Romain?
Alors, le style d'aujourd'hui, c'est un genre super intéressant, mais pas super fun, désolé. Ah, on parle de Folktronica.
Yo no sé si podré. Ay, 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 qu'elle
est. Cet extrait, c'est le morceau La Visita de Juana Molina, une chanteuse argentine pionnière dans ce genre. Son album Segundo date de 2000. Le genre naît autour de ces années-là. La musique électronique émerge, se démocratise et de manière assez naturelle, les artistes incorporent des éléments électroniques dans leur musique, ici la folk. L'idée, mélanger le côté organique de la folk aux textures électroniques pour donner de la profondeur. Et comme on n'est pas hyper inspiré, on appelle ça Folktronica. Ça, c'était Enz de Fortet. Il va devenir une figure majeure du genre dans les années 2000. Ça sera un peu la tête, sans mauvais jeu de mots, de la Folktronica jusque dans les années 2010, où le genre va se réinventer. Parce qu'en 2016, le groupe Bon Iver, mené par Justin Vernon, sort l'album 22 A Million. À cette époque, Bon Iver, c'est une figure majeure de la folk, mais cet album, il amène quelque chose d'assez expérimental. Le groupe innove beaucoup. Justin Vernon modifie sa voix beaucoup, et ça donne des ovnis comme le titre 715 Crix.
Love at second glance, it is not so. Honey, understand that I have been left here in the reeds. But all I'm trying to do is get my feet up from the creeds.
Après cet album, une nouvelle génération de Folktronica se forme avec des projets marquants. On peut citer Quadeca ou encore Midertif, un groupe sud-coréen. Ils sortent en 2018 le très bon Crumbling. Dessus, on retrouve le titre These Chains. On termine avec ma petite reco dans le genre, c'est l'album I Heard That Noise de Quickly Quickly. C'est sorti il y a tout juste un mois, c'est vraiment tout frais. C'est de la folktronica avec des influences lo-fi et psychédéliques, c'est génial. Je vous propose le morceau This Room.
Merci Romain. Tiens, avant de partir, tu veux pas regarder vite fait sur le répondeur ?
Oui, il me semble qu'on a un message.
Ah ouais, ça clignote, hein, je me disais bien aussi.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Salut Syllab, eh ben, je voulais vous féliciter pour toutes vos émissions de 6h avant minuit. J'en ai écouté quelques-unes et bravo à Jeanne Levac et Romain Morantin pour leur énergie et à tous les autres bien sûr. Bravo l'équipe, à bientôt.
Mais oui, bravo à tous, vous êtes les meilleurs. Si vous aussi vous voulez nous faire plein de compliments, ou pas d'ailleurs, si vous avez un retour sur nos reportages, nos chroniques, si vous avez une idée de sujet, si vous voulez nous dire tout ce que vous voulez, bah, appelez-nous, laissez-nous un message vocal. Le numéro c'est le 02 30 96 25 35. On diffuse votre message à la fin de l'émission. Juste avant de se quitter, je voulais aussi vous rappeler les mots de passe pour les jeux concours. Il y en a plusieurs en ce moment. Alors déjà, le festival Les Envolées, il y a deux jeux concours. Vous pouvez remporter des places pour le spectacle Être qui je suis. Ça se passe le samedi 24 mai à 16h30 au Théâtre de la Paillette. Je vous lis le pitch vite fait. Comment grandir, comment se construire dans un monde hétérosexuel quand on ne correspond pas à la norme imposée ? Être qui je suis tente de répondre à cette question avec sensibilité et dérision. Tout un programme. Et puis, à gagner aussi des places pour un spectacle qui a lieu le lendemain, donc le dimanche 25 mai, au même endroit, Théâtre de la Paillette, à 14h. Ça s'appelle Dérapage amoureux, ça parle d'amour et de vérité pas toujours bonne à entendre. Un seul mot de passe pour ces deux jeux, Paillette. Et puis, on vous propose aussi deux places pour les concerts de Imaran, Timbuktu et Mirkout. Ça, c'est le vendredi 23 mai, oui, à 20h30 à l'Ubu. Là, le mot de passe pour jouer, c'est Saz, S-A-Z. Le Saz, pour info, c'est un instrument à cordes, une sorte de luth kurde. On pourra en entendre lors de cette soirée spéciale organisée par l'asso Gosliko. Et puis, dernier jeu concours, après je m'arrête, je vous redonne le mot de passe. Pour le spectacle Tamanegi au Triangle le 27 mai prochain, c'est oignon parce que en japonais, Tamanegi, ça veut dire
oignon.
Oui, merci Romain. Wow. C'est ça. Pour jouer et gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Merci Gwen pour la technique et à demain dans 6h avant minuit.
Exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.